Il est 10 heures, si vous nous écoutez en direct, et c'est l'émission Le quotidien des quotidiens de ce 8 décembre 2017. Hélène Denis qui vous accompagne. Bonjour Mathieu.
Hello, hello.
C'est rare que je donne l'heure en entrée comme
ben
ça.
Ben oui, c'est pour ça que je pense que vous étiez surprise, mais en même temps...
je me surprenais moi-même. je me suis c'est fait
vrai.
Peur moi-même.
C'est vrai qu'il est 10 heures.
Oui, alors, et c'est vrai qu'on est le 8 décembre.
Oui. Le 8 décembre, tiens, j'ai envie de commencer par les naissances.
Ah, pourquoi pas?
Ben, il faut se gâter de temps en temps.
Ben oui.
Le compositeur finlandais Johann Sibelius, ou Johann Sibelius, est né en 1865 et décédé en 1957.
C'est lui qui a composé, je pense que le titre, c'est La valse triste. C'est tellement beau comme musique.
C'est vrai, je vais regarder. Peut-être qu'on pourrait se gâter autrement.
On pourrait se gâter.
Tout à fait.
C'est la journée où on se gâte.
Oui. Le comédien et acteur Gratien Gélinas, né à Saint-Tite, est né en 1909, un 8 décembre. Jim Morrison, le chanteur de The Doors ou Dead Doors, est né à Melbourne, en Floride, en 1943. Et Kim Basinger, l'actrice américaine, est née en 1953. En 2004, un 8 décembre, Ottawa autorise l'extradition aux États-Unis du chef mafieux Vito Rizzuto. Nous avons une tempête laisse, c'était le bon vieux temps, en 1996, 41,8 cm de neige à Québec, un record.
Vous êtes déjà nostalgique de ces bordées de neige-là. Il y en a eu quand même ces dernières années.
Oui, non, tout à fait. J'attends toujours la première avec grand plaisir.
J'ai entendu entre les branches de sapin qu'il y aura une petite tempête mardi.
C'est vrai?
Oui. On verra bien.
Je sortirai mes skis.
Je pensais à vous.
Merci. 1991, Kimberly Bergalis, 23 ans, succombe au sida en Floride. C'est le premier cas recensé de contamination par soins de santé, ceux de son dentiste. 1980, le musicien et poète John Lennon, 40 ans, est assassiné par un déséquilibré devant chez lui à New York. 1966, les États-Unis et l'URSS s'entendent sur le principe d'interdiction des armes atomiques dans l'espace. Le drapeau européen est adopté en 1955, un 8 décembre. 1949, chassé du continent par les communistes, le gouvernement nationaliste chinois s'installe dans l'île de Formose, Taïwan. 1944, dans un vote sur la conscription militaire à Ottawa, au Canada, les libéraux de Mackenzie King l'emportent par 143 voix contre 70. Adolf Hitler publie son Mein Kampf, Mon combat, en 1925. En 1869, rue Yonge à Toronto, Timothy Eaton ouvre son premier magasin. Et en 1852, l'Université Laval, première université francophone en Amérique, obtient sa charte royale. Elle compte 4 facultés en théologie, en médecine, en droit et en art. Et pour ce qui est des décès, en 2003, le pianiste cubain Ruben Gonzalez, membre du Buena Vista Social Club, décède. Il était né en 1919 et le philosophe anglais Herbert Spencer, et lui qui était né en 1820 et décédé un 8 décembre 1903.
Beaucoup d'événements.
Oui, et beaucoup. J'attends toujours la neige.
Oui, et puis on va certainement rendre hommage à John Lennon aujourd'hui, Mathieu.
Oh, oui, ben oui.
Oui, Valse triste, je vous le confirme.
Parfait.
C'est une œuvre signée Sibelius. C'était son anniversaire de naissance.
Exact. Il est né en 1865, un 8 décembre.
Merci. À la une de la presse, une exclusivité à la recherche des riopelles volées, trahies par les indiscrétions de sa femme, un homme proche de la mafia montréalaise a été accusé de recel parce qu'il avait accroché chez lui 3 tableaux volés de Jean-Paul Riopelle. Un pas de plus pour la SQ qui tente de récupérer les 21 œuvres du grand maître québécois tombées aux mains de criminels. Organiser un party de bureau à l'ère de hashtag ou mot-clic MeToo ou moi aussi. Les vents attisent les flammes, récit de Québécois au cœur du brasier californien. Art, cinéma, Star Wars, The Last Jedi, quelle destinée pour nos héros? Nos idées de scénario illustrées avec des figurines et de la gommette. Carlos Farrugia est un homme discret, copropriétaire d'entreprise qui possède plus d'une centaine de guichets automatiques, principalement à Saint-Léonard. L'homme d'affaires de 50 ans est peu visible dans la sphère publique. Considéré par la police comme un homme proche du mafieux Antonio Pietrantonio, il a fait des affaires avec quelques membres connus du clan sicilien au fil des ans, mais conservait jusqu'ici un casier judiciaire vierge. En janvier dernier, des enquêteurs de la Sûreté du Québec, spécialistes du monde de l'art, ont reçu une information du public selon laquelle la conjointe de Farrugia faisait des recherches en ville sur des œuvres d'art qu'elle possédait à la maison. Moins discrète que son mari, Béatrice Longo dirige la Fondation Tournesol, organisme d'aide aux familles démunies. Elle aurait contacté des gens et discuté très ouvertement de trois gouaches de Jean-Paul Riopel qui était accrochée dans sa maison et qui avait été acquise par son conjoint avant leur mariage, selon un mandat de perquisition consulté par la presse. Les policiers ont bondi en apprenant de quelles œuvres il s'agissait. Les trois tableaux peints par l'artiste de 1955 à 1956 sont évalués à 50 000 $ chacun, pour un total de 150 000. Petit hic, ils avaient été volés en 1999 et on était sans nouvelles d'eux depuis. Si un artiste est internationalement connu, la demande augmente. Riopel est connu à travers le monde, il y a une demande de partout. Ça intéresse aussi les criminels parce qu'il y a une piastre à faire là, lance le sergent enquêteur Alain Dumouchel du module d'enquête sur les œuvres d'art de la Sûreté du Québec en entrevue à la presse. Ce module unique au Canada a été créé en 2003. L'objectif premier n'était pas d'arrêter des gens, mais de préserver l'héritage culturel du Québec, explique le capitaine Alain Gaulin, patron des deux enquêteurs du module qui possède une formation pointue en histoire de l'art. D'autres vols de Riopel, le 24 décembre 2008, des malfaiteurs s'introduisent par effraction chez un médecin de Saint-Aubert, absent de chez lui. Le système d'alarme se déclenche et dans leur fuite, les voleurs abandonnent plusieurs toiles sur le terrain. Ils dérobent tout de même trois œuvres de Riopel évaluées à 40 000 $. Aussi, en mai 2014, une huile sur toile d'un mètre carré peinte par Riopel est évaluée à 225 000 $ et volée dans une galerie de Toronto. En 2005, un diplômé en histoire de l'art employé contractuel du Musée d'art de Joliette, Marc-André Morin-Larocque, a été arrêté pour avoir tenté de vendre cinq lithographies de la série « Derrière le miroir 1978 » de Jean-Paul Riopel. En 2002, un client est entré à la galerie Nord-Emer de Montréal et a demandé à l'employé de monter dans une échelle pour décrocher un tableau de Cosgrove qu'il souhaitait examiner. Profitant de la distraction, un complice a dérobé sur un mur un Riopel évalué à 300 000 $. Des images de caméras de surveillance ont permis à Alain Lacourcière, premier policier québécois à s'être spécialisé dans le vol d'œuvres d'art, d'identifier Charles Abitbol, un récidiviste qui avait fait de la prison aux États-Unis et dans six pays européens pour des dossiers semblables. Le suspect a dévoilé où se trouvait la toile et est copé d'une amende de 15 000 $. Je n'ai jamais vu ça en 30 ans. Les vents qui attisent les multiples incendies non maîtrisés ont redoublé d'ardeur hier dans la région de Los Angeles, dans le sud de la Californie. Plus de 230 000 personnes ont été évacuées alors que l'absence de pluie depuis 8 mois a créé des conditions parfaites pour la propagation des incendies. « Je n'ai jamais vu ça en 30 ans », raconte un Québécois établi là-bas. D'ici le soir, on voit les flammes dans la montagne. Il y a des étincelles qui tombent sur les voitures. Il faut fermer les fenêtres, ça sent la fumée. Luc Allary, propriétaire des restaurants Soleil et Petit Soleil à Westwood, dans la partie ouest de Los Angeles, vit au rythme des incendies. Mercredi soir, j'ai 80 % des gens qui ont annulé leur réservation à cause des feux, dit-il. Mes clients viennent de Bel Air, de Beverly Hills, dans les montagnes. Ils veulent rester chez eux, ils attendent de savoir s'ils doivent évacuer. Les gens n'ont pas la tête à sortir pour aller au restaurant. Ces restaurants et sa maison sont en sécurité. Ils sont situés en zone urbaine, là où les flammes ne se font pas menaçantes pour l'instant. Éric Charbonneau, photographe québécois qui habite en Californie, a vu mercredi les flammes embraser les montagnes près du quartier Sylmar à Los Angeles, où plus de 100 000 personnes ont reçu un ordre d'évacuation. C'est triste car, contrairement aux gens de Bel Air, les gens de Sylmar sont surtout des immigrés et des travailleurs qui n'ont pas nécessairement d'assurance et ne peuvent pas aller loger au Four Seasons le temps que la crise passe. Sa famille et lui sont en sécurité dans leur maison de Santa Clarita, au nord de Los Angeles, dit-il. Le ministre de la Santé doit changer. Cinq grandes organisations du réseau de la santé dénoncent l'approche de Gaétan Barrette. Gaétan Barrette doit changer d'approche maintenant, somme plutôt les représentants de cinq grandes organisations du réseau de la santé du Québec dans une déclaration commune diffusée hier, en réaction à une enquête de la presse sur les méthodes musclées du ministre de la Santé. Depuis l'arrivée de Gaétan Barrette au poste de ministre de la Santé et des Services sociaux, toutes nos organisations ont eu à dénoncer son approche unilatérale sans égard pour les professionnels et les travailleurs du réseau. Sa méthode, imposer ses vues, agir unilatéralement, privilégier le bâton, régler ses comptes, nier les situations et les faits, présenter des lois pour contrer les jugements qui ne font pas son affaire, écorcher celles et ceux qui dénoncent l'intolérable. Il va même jusqu'à réfuter la détresse du personnel soignant dans le réseau de la santé, dénonce dans cette déclaration écrite les cinq présidents d'organisations de médecins, de gestionnaires et de professionnels de la santé. La déclaration est signée par Carole Dubé de l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux du Québec, Diane Franqueur de la Fédération des médecins spécialistes, Louis Godin de la Fédération des médecins omnipraticiens, Christophe Lemieux de la Fédération des médecins résidents et Chantal Marchand de l'Association des gestionnaires des établissements de santé et de services sociaux. Un ministre omnipotent. Ils ont ramé pendant 2 ans, de 30 à 40 heures par semaine, bénévolement, mais le bateau était énorme, sans capitaine et fuyait de partout. Alors que le Centre universitaire de santé McGill menaçait de sombrer dans l'encre rouge, les membres indépendants de son conseil d'administration ont tenté d'appeler le ministre de la Santé à la rescousse. « On a frappé un mur », raconte l'un d'eux, Glenn Rourke. L'hôpital faisait face à des compressions budgétaires qui risquaient d'affecter les patients. Il n'avait pas de président-directeur général depuis près d'un an. Le moral du personnel était au plus bas. Nous avons tenté plusieurs approches auprès du ministre, des courriels, des téléphones à son bureau, aucune réponse, pas un accusé de réception. Rien, dit Glenn Rourke. Non seulement Gaétan Barrette ignorait-il royalement les administrateurs, mais il ne manquait pas non plus une occasion de remettre en question leurs compétences. En croire M. Barrette, il n'y a aucun lien entre cette vague de démission au CUSM et au CUSUM, et celle qui a touché le centre hospitalier de l'Université de Montréal, le CHUM, en 2015. C'est complètement différent. Le débat était d'un tout autre ordre, a-t-il soutenu en juillet. Il y a pourtant un dénominateur commun à ces départs, le ministre de la Santé lui-même. Rectificatif, magazine Santé Inc., contrairement à ce que nous avons écrit hier dans notre reportage sur les méthodes du ministre Gaétan Barrette, le magazine Santé Inc. n'appartient pas à l'Association médicale du Québec, AMQ. Il appartient plutôt à JOUL, filiale de l'Association médicale canadienne, AMC. L'AMQ est un partenaire d'affaires de l'AMC. Nos excuses.
Si
Philippe B et sa chanson reprise tirée de l'album Variation Fantôme.
La fin des sacs de plastique. Le règlement montréalais entrera en vigueur le 1er janvier, mais les commerçants disposeront d'un sursis de 6 mois pour s'y conformer. Alors, il y a une photo avec un homme tenant des sacs de plastique. Les sacs en plastique ultra minces sont appelés à disparaître à Montréal. C'est du moins le vœu de l'administration municipale. Lisée et Couillard s'allient contre Legault. Le chef de la CAQ vilipendé pour avoir dit que le Québec accorde trop d'importance à la connaissance du français pour choisir ses immigrants. Un article de Jean-François Nadeau, Histoire Mackenzie King, les secrets d'un premier ministre, savoir où fermer les yeux. La réponse change selon les époques. On voit une statue de Mackenzie King sur la colline du Parlement à Ottawa. Baisse de taxes scolaires. La réforme Proulx profitera surtout aux commissions scolaires anglophones. Incendie, les luxueux quartiers de LA menacés. Et la chronique de José Blanchette, Zeitgeist, philosophie dans l'action. Le règne du sac de plastique à usage unique tire à sa fin à Montréal. Dans moins d'un mois, il sera interdit aux commerçants d'en distribuer à leurs clients pour leurs emplettes. Les commerçants bénéficieront toutefois d'une période de grâce de 6 mois pour se conformer au règlement qui entre en vigueur le 1er janvier prochain. La nouvelle mairesse Valérie Plante avait récemment laissé planer le doute sur l'application du règlement en disant vouloir consulter toutes les études disponibles avant d'aller de l'avant avec le projet. Le responsable de l'environnement au comité exécutif, Jean-François Parenteau, a cependant dissipé tout équivoque. C'est clair qu'on va de l'avant, a-t-il indiqué au Devoir, mais les commerçants vont avoir jusqu'au 5 juin pour se conformer aux nouvelles règles. Et à partir de janvier, il y aura des campagnes de sensibilisation. Le Québec a accordé trop d'importance à la connaissance du français dans le processus de sélection des immigrants et le premier, peut-être même le seul critère de sélection à l'immigration devrait être la capacité à répondre aux besoins du marché du travail, a plaidé le chef de la coalition Avenir Québec, François Legault, dans une entrevue accordée au réseau CBC. L'échange publié par CBC mercredi a rebondi au Salon Bleu jeudi. Après avoir causé un malaise au sein du caucus libéral avec sa motion sur le Bonjour Aïe, le chef du Parti québécois, Jean-François Lisée, s'en est pris aux positions de son rival caquiste sur les questions d'immigration. De l'autre côté du Salon Bleu, le chef libéral a saisi la balle au bond. « Je suis excessivement surpris d'entendre la CAQ dire des choses semblables, mais quand on veut être élu à tout prix, on dit n'importe quoi », a-t-il répondu dans une pointe lancée à François Legault, dont le parti le devance dorénavant le sien dans les sondages. Sur son site web, CBC a publié la totalité de son échange avec François Legault. Les propos qui y sont écrits sont conformes à ceux rapportés en chambre par Jean-François Lisée. Dans la même entrevue à CBC, François Legault a déclaré que la CAQ proposait de soumettre les immigrants à un test de français 3 ans après leur arrivée au Québec. Le premier et peut-être le seul critère de sélection devrait être la qualification et la capacité à répondre aux besoins du marché du travail, a-t-il ajouté. Ça illustre que pour la CAQ, l'immigration, c'est purement une question économique, a réagi le député solidaire Gabriel Nadeau-Dubois. Enquête nationale sur les femmes autochtones appelle à la démission de Marion Buller, oui à un mandat prolongé s'il y a une nouvelle commissaire en chef, dit l'APN. La colère de certains chefs autochtones et de familles de victimes de violences s'est transformée jeudi en un appel officiel à la démission de la commissaire en chef de l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. Réunis en assemblée à Ottawa, les chefs de l'Assemblée des Premières Nations ont adopté une résolution réclamant que le gouvernement Trudeau remplace la patronne de la commission d'enquête. La motion appuie la demande des 4 commissaires qui souhaitent qu'Ottawa prolonge leur mandat de 2 ans, mais à condition que le gouvernement fédéral remplace la commissaire en chef Marion Buller et qu'il consulte les familles de victimes et les survivantes en vue de nommer sa remplaçante. La ministre responsable des relations couronne autochtone, Caroline Bennett, n'a pas commenté, se contentant d'indiquer que son gouvernement s'est engagé à mettre fin à cette tragédie nationale. « Vous êtes probablement une femme brillante, mais vous n'êtes pas une brillante commissaire pour cette enquête », lui a lancé crûment la grande chef Sheila North-Wilson du nord du Manitoba. Il a lancé cette affirmation à la commissaire Buller. « On a vu une commission qui est en train de s'effondrer et elle ne fait pas le travail pour lequel nos femmes, nos enfants et nos hommes se sont battus. « Je suis désolée de le dire, mais je crois que vous devez vous retirer. Vous devez démissionner. » Un appel qui a été chaudement applaudi, mais la commissaire Buller n'y a pas consenti. « Notre travail est important. Les commissaires et moi-même avons l'intention de continuer », a-t-elle tranché. La loi sur l'immatriculation des armes à feu qui rendra obligatoire l'immatriculation des armes à feu sans restriction présentes sur le territoire du Québec entrera en vigueur le lundi 29 janvier 2018, a annoncé le gouvernement québécois jeudi. Ainsi, les propriétaires d'armes à feu sans restriction et les entreprises qui en font le commerce devront faire immatriculer gratuitement les armes auprès du service d'immatriculation des armes à feu, SIAF ou SIAF. Les propriétaires d'armes à feu actuelles disposeront d'un an pour enregistrer leurs armes. Cet outil supplémentaire de prévention réclamé par plusieurs regroupements et associations, dont les organisations policières, permettra un meilleur contrôle des armes à feu sur le territoire québécois, ce qui évitera bien des drames, a affirmé le ministre de la Sécurité publique, Martin Coiteux. Mandat de 4 ans pour Philippe Schnob. L'administration de la mairesse Valérie Plante entend renouveler le mandat de Philippe Schnob à la présidence du conseil d'administration de la Société de transport de Montréal pour une période de 4 ans. Mobilisation palestinienne et réprobation mondiale sur sur Jérusalem. Des Palestiniens en colère ont affronté jeudi les soldats israéliens et brûlé le portrait de Donald Trump pour protester contre la décision unilatérale et potentiellement explosive du président américain de reconnaître Jérusalem comme la capitale d'Israël. Plus d'une vingtaine de Palestiniens ont été blessés par des balles en caoutchouc ou réelles lors de heurts d'ampleur relativement limitée en Cisjordanie occupée et dans la bande de Gaza, selon les secours palestiniens. L'initiative de M. Trump sera vendredi au cœur d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU. Le Parlement australien a légalisé jeudi le mariage entre conjoints de même sexe dans la foulée d'échanges acrimonieux qui ont pris fin seulement quand une enquête gouvernementale controversée a révélé que la population était massivement favorable à la mesure. Les membres du public qui ont assisté au vote ont applaudi chaleureusement après l'adoption de la loi qui redéfinit le mariage comme l'union de deux personnes. Seulement 4 parlementaires ont exprimé leur opposition. La même loi avait été facilement adoptée par le Sénat australien la semaine dernière. La loi devrait entrer en vigueur dans environ un mois et les premiers mariages seront célébrés un mois plus tard. Merci d'écouter le quotidien des quotidiens. Je vous souhaite un agréable vendredi. C'est Hélène Denis qui vous accompagne à venir la suite de l'émission avec la revue de presse du Journal de Montréal.
So this is Christmas. And what have you done? Another year over. And so this is Christmas. I hope you have fun. The near and the dear ones, the old and the young.
A very Merry Christmas and a Happy New Year.
So happy Christmas, for black and for white, for yellow and red ones. Let's stop all the fights.
A very Merry Christmas and a Happy New Year. Let's hope it's a
Mais oui, on s'était dit qu'on allait se faire plaisir doublement avec une chanson de Noël, et c'était une chanson de John Lennon.
En une du Journal de Montréal de ce 8 décembre, 41 millions en primes d'assiduité à des médecins spécialistes, 105 $ pour arriver à l'heure. Le journal chez les Markov en Russie, « J'aurais aimé qu'on me respecte », dit Andriy Markov, ancien joueur du Canadien de Montréal. $41 million pour être ponctuel. Les médecins spécialistes qui font des interventions chirurgicales ont bel et bien droit à une prime d'assiduité pour que les salles d'opération des hôpitaux soient en activité entre 8 heures le matin et 16 heures l'après-midi du lundi au vendredi. Pour les chirurgiens, cette prime est de 105 $ s'il y a prise de contact de l'anesthésiste avec le patient opéré entre 7 heures et 8 heures le matin. Alors, juste avant, on écrivait « cette prime que plusieurs Québécois aimeraient sans doute avoir est inconnue du grand public et méconnue même dans le monde de la santé, sauf pour ceux qui travaillent dans les blocs opératoires », a pu observer notre bureau d'enquête depuis 2 mois. Ces primes d'assiduité représentent environ 7 500 $ par médecin qui opère, selon des données obtenues auprès de la Régie de l'assurance maladie du Québec. Il a fallu 3 semaines à notre bureau d'enquête pour obtenir des précisions sur ces primes qui ont bénéficié à plus de 1 900 médecins seulement l'an dernier. L'objectif de ces primes est de permettre un meilleur accès à des patients au bloc opératoire et au plateau technique, selon une porte-parole du ministère de la Santé. Mais selon des chiffres obtenus du ministère, le nombre d'opérations réalisées depuis l'instauration de cette prime d'assiduité a augmenté de seulement 1 % entre 2012 et 2017. C'est un cadeau, la prime. Est-ce que ça change quelque chose sur la productivité? Ça reste à voir, affirme un médecin spécialiste ayant demandé l'anonymat et qui profite lui-même de la prime. Contrairement aux médecins, le personnel de soutien et les infirmières ne reçoivent aucune prime pour arriver avant 8 heures du matin, nous a confirmé la Fédération interprofessionnelle de la santé. En plus des chirurgiens, d'autres spécialistes ont droit à la prime lorsqu'ils opèrent. C'est le cas des spécialistes en urologie, obstétrique gynécologie, otorhino-laryngologie, neurochirurgie et en ophtalmologie. Le revenu moyen net des médecins spécialistes était de 443 161 $ en 2016 et 2017. L'artiste peintre accusé d'avoir fabriqué un faux RioPel et d'avoir tenté de le vendre sur Internet s'en est sorti avec la déjudiciarisation du dossier. Michel Vermeulen en a terminé avec la justice, lui qui était accusé de fabriquer de faux et d'utilisation de faux. Cette accusation avait soulevé de nombreuses questions. Pourquoi cet artiste, qui affirme dans son CV avoir exposé partout dans le monde, aurait-il peint une toile en la signant au nom du grand peintre Jean-Paul RioPel? L'œuvre avait été mise en vente sur eBay pour la somme de 300 000 $. Il n'y a eu aucun acheteur. La page de la vente a rapidement été retirée, mais cela avait attiré l'attention des autorités qui avaient accusé Vermeulen. En plus d'avoir été acquitté, il pourra également récupérer sa toile qui avait été saisie par les autorités. Mais avant d'en reprendre possession, il n'aura pas le choix que d'enlever la signature au nom de RioPel. Des pizzaiolos acrobates ont fait valser des pattes dans les airs pour marquer l'entrée de cet art napolitain au patrimoine immatériel de l'humanité de l'UNESCO hier. Pour nous, c'est comme gagner la Coupe du monde, a réagi Gennaro Gattimolo Pizzaiolo de 57 ans dans le centre de Naples. Plusieurs restaurateurs ont allumé leur four tôt hier matin dans la cité du sud de l'Italie et offert des portions de pizza aux passants pour célébrer l'événement. La venue d'un civil à la tête du SPVM fait débat. D'anciens chefs de police préviennent que son acceptation serait difficile. Le réel changement de culture au SPVM passera par la venue d'un civil à la tête du corps policier, croient des élus, mais celui-ci pourrait ne jamais se faire accepter en raison des guerres de clans. La police de Montréal était à la recherche hier d'un conducteur de 17 ans ayant sectionné un lampadaire avant d'accrocher 5 véhicules stationnés et de s'enfuir dans l'arrondissement de Rosemont-la-Petite-Patrie dans la nuit de mercredi à hier. Sous la force de l'impact, le lampadaire a été sectionné et a ensuite été traîné par la voiture qui, dans une tentative de fuite, a accroché 5 autres véhicules avant de s'immobiliser. 2 hommes sont sortis du véhicule fautif et ont pris la poudre d'escampette. Le passager, un homme de 20 ans, s'est réfugié chez un ami et a appelé les policiers. Il aurait subi une blessure importante à une jambe. Le SPVM était toujours à la recherche du conducteur fugitif. Les boulevards Langelier et Rosemont ont été fermés en partie à la circulation afin de permettre aux experts en collision de reconstituer la scène. Lors de son premier séjour à la Citadelle de Québec en tant que nouvelle gouverneure générale du Canada, hier, Julie Payette a rencontré le premier ministre Philippe Couillard, le chef de l'opposition Jean-François Lisée et le président de l'Assemblée nationale Jacques Chagnon. La Citadelle est sa seconde résidence officielle après Rideau Hall à Ottawa. Julie Payette a d'ailleurs remis plusieurs distinctions, dont l'une à Martin Prudhomme, le nouveau patron de la police de Montréal qui a été fait officier de l'Ordre du mérite des corps policiers. Elle a aussi honoré des artistes comme Dan Bigra pour le show du Refuge et les acteurs de la pièce à succès Brou, soit Michel Côté, Marcel Gauthier et Marc Messier. L'apport de plusieurs personnes engagées dans du bénévolat a également été salué, de même que des gestes de bravoure. Barrette dit n'avoir jamais intimidé. Lorsque Gaétan Barrette a fait référence à l'assassinat d'un collègue en 2009, c'était une image exprimée dans le contexte d'un party de Noël particulièrement tendu, s'est défendu le ministre de la Santé hier. Carignan, un collègue médecin, lui, il poignarde les gens dans le dos. « Mais moi, je vais le poignarder de face jusqu'à temps qu'il meure », aurait dit le ministre à l'époque où il était radiologiste à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Ce sont des conversations de souper de Noël. Je peux vous dire qu'à ce souper de Noël-là, l'ambiance n'était pas trop jojo, a expliqué le ministre en riant. M. Barrette réagissait à une enquête de la presse dans laquelle sont répertoriés des épisodes de langage inadéquats tenus par le ministre quand il était radiologiste. Selon le quotidien montréalais, M. Barrette aurait plutôt tenu de tels propos lors d'un appel téléphonique au Dr Robert Filion le 3 septembre 2009. M. Barrette aurait également indiqué à l'époque qu'il allait détruire un par un ses collègues. Malgré les termes crus et les menaces, M. Barrette refuse de se considérer comme un intimidateur. Ses gestes auraient quand même pu être perçus comme de l'intimidation par les autres, avoue-t-il. Il n'y a aucun doute que des gens se sentent bousculés, a-t-il également admis. Et l'hôpital Notre-Dame de Montréal manque de patients alors que le quart des civières de l'urgence sont vides de nombreuses personnes croyant l'établissement fermé. Le 26 novembre, 110 patients de l'hôpital ont été transférés dans le nouveau centre hospitalier de l'Université de Montréal, CHUM, après une période de transition pendant laquelle l'hôpital a été intégré au CIU 3S du Centre-Sud. Celui-ci est désormais fonctionnel, mais l'achalandage n'est pas au rendez-vous. On a beaucoup entendu parler du déménagement du CHUM, mais l'hôpital Notre-Dame est encore ouvert, a dit la directrice des services professionnels, Julie Lajeunesse.
Il s'appelle Samuel et sa chanson, c'est La Révolte.
Et puis, juste avant la tournée des journaux régionaux, nouvelle de dernière heure, l'ex-entraîneur Bertrand Charest écope de 12 ans de prison. L'ex-entraîneur de ski Bertrand Charest a écopé de 12 ans de prison ce matin pour des crimes à caractère sexuel commis à l'endroit de 10 athlètes féminines qu'il entraînait dans les années 90. La patinoire Canada 150 est ouverte. C'est dans le droit. Paul Gaboury qui signe le texte. La patinoire Canada 150, aménagée sur la colline du Parlement, a été officiellement inaugurée jeudi matin. Cette patinoire avait semé la controverse récemment en raison de la facture de 5,6 millions associée au programme ainsi que de la liste exhaustive d'activités interdites sur la surface glacée. La ministre du Patrimoine canadien, Mélanie Joly, était accompagnée de nombreux dignitaires, dont Kent Hur, ministre des Sports et des Personnes handicapées, Eugene Melnick, représentant du Festival international de hockey d'Ottawa et propriétaire des Sénateurs d'Ottawa, ainsi que plusieurs représentants des Premières Nations, élèves et artistes. Pour la toute première fois, les membres du public pourront patienter sur la colline du Parlement, symbole du Canada et lieu de rassemblement pour les Canadiens et les visiteurs du monde entier. Pourront patiner, dis-je bien. Il me semble que j'ai dit patienter. Alors, patiner, c'est autre chose, mais des fois, quand les gens patinent, il faut être patient. Patine d'une autre façon. Et pour clore l'année de Canada 150, quoi de mieux que de se réunir en famille et entre amis et de s'adonner à l'un des passe-temps d'hiver préférés des Canadiens, a déclaré la ministre Joly. La patinoire familiale a été construite par le Festival international de hockey d'Ottawa et son partenaire, les Sénateurs d'Ottawa. Les activités prévues comprennent du patinage libre gratuit, un tournoi de hockey junior mettant en vedette des équipes masculines et féminines de toutes les provinces et de tous les territoires, ainsi que des activités spéciales et des démonstrations sportives. La patinoire de la colline du Parlement sera ouverte du 7 décembre 2017 au 28 février 2018, Les laissez-passer de patinage libre sont disponibles à midi chaque jour pour la séance de patinage prévue 48 heures plus tard. Donc, la patinoire est ouverte depuis hier. De la philo pour les enfants, c'est dans le quotidien, Laura Lévesque. Plusieurs enfants du primaire de la région seront mieux préparés à devenir des citoyens respectueux, confiants et créatifs. Le Collège d'Alma sera l'hôte de la populaire formation Atelier philo et pratique de l'attention avec les enfants, offerte par Sève Formation Canada. Ce sera la première fois que cette formation, qui intéresse particulièrement les enseignants, sera disponible dans la région. Celle-ci permet de former des animateurs d'ateliers destinés aux jeunes et visant à développer leur savoir-être et à les initier au vivre ensemble. Ces ateliers enseignent aux enfants à raisonner par eux-mêmes, à gérer leurs émotions, à développer leur pensée critique, attentive et créative, de même qu'à faire preuve d'empathie et d'ouverture. La philosophie, rappelons-le, est une discipline abordée uniquement au niveau collégial. On a eu beaucoup de demandes. Normalement, cette formation est présentée à Montréal ou Québec. Et comme il s'agit d'une formation sur plusieurs fins de semaine, c'était plus compliqué pour les gens d'ici. On est donc très fiers de présenter cette formation dans la région, exprime Muriel Dion, conseillère pédagogique au Collège d'Alma. Cette nouvelle offre s'inscrit dans le grand projet de campus collaboratif porté par le Collège d'Alma, qui a notamment pour objectif d'outiller la communauté pour le développement des compétences de demain. Plusieurs enseignants du département de philosophie du Collège d'Alma suivront d'ailleurs cette formation pour ultimement créer une escouade qui sillonnera le milieu et initiera les plus jeunes à la philosophie afin d'éveiller leur discernement et en faire de meilleurs citoyens. Cette formation de 48 heures, incluant un stage de 3 heures, sera donnée dès l'hiver 2018 à raison d'une fin de semaine par mois, soit les 24 et 25 février, les 17 et 18 mars, les 28 et 29 avril et les 9 et 10 juin. Les frais d'inscription sont de 440 $. La formation s'adresse aux intervenants et enseignants en milieu scolaire, de même que les professionnels du secteur de la santé ou de la jeunesse, mais également aux parents. Les personnes intéressées sont invitées à contacter rapidement Sève Formation Canada, www.sève-formation.ca, pour réserver leur place. Sève est présente dans plusieurs pays de la francophonie, dont la France, la Belgique, la Suisse et le Maroc. Dans le soleil, Jean-Simon Gagné, le titre de son article « Anticonstitutionnellement détrôné comme mot le plus long de la langue française ». C'est officiel, sonner au bois, résonner musette, le mot « anticonstitutionnellement » n'est plus le mot le plus long de la langue française. Avec ses 27 lettres bien comptées, le mot « intergouvernementalisation » au pluriel l'a détrôné le mois dernier. Sachez que le nouveau chouchou de l'Académie française signifie « mise en œuvre commune à plusieurs gouvernements ». Difficile à glisser dans une conversation, mais très payant pour les amateurs de Scrabble. Quant à savoir combien de temps durera l'intergouvernementalisation, les paris sont ouverts. Déjà, le quotidien La Libre Belgique propose l'hippopotomonstrosquipédaliophobie, une monstruosité de 35 lettres qui signifie la peur des mots trop longs. C'est en une de la tribune, Badawi sur une liste de pardon royal. L'espoir renaît, Raif Badawi se retrouve pour une première fois sur une liste de pardon royal en Arabie Saoudite. Si c'est le cas, il pourrait être libéré de prison et pourrait éventuellement gagner le Canada et plus particulièrement Sherbrooke, où l'attendent son épouse et ses deux enfants. C'est la première fois qu'on me dit que Raif est dans les listes de pardon du roi. Le gouvernement disait depuis longtemps que le dossier judiciaire de Raif n'était pas fermé, a expliqué son épouse Anzaf Haidar. L'épouse du blogueur qui croupit en prison depuis 5 ans et demi croit que cette fois pourrait être la bonne. Avec l'arrivée au pouvoir du prince héritier Mohamed Ben Salman, qui a entrepris des réformes au royaume saoudien. C'est maintenant le meilleur moment parce que la situation politique au royaume a changé, explique-t-elle. C'est devenu plus moderne, c'est le mot qu'utilise l'émir Mohamed Ben Salman, que l'Arabie saoudite va changer sa gouvernance, que ça va devenir une gouvernance moderne, a précisé Mme Haidar. Alors, elle a de l'espoir, beaucoup d'espoir. Dans le Nouvelliste, Amélie Houle a 6 ans, Victor amasse 4 098 $. Faire le choix de participer au défi tête rasée de Lucan est un grand geste en soi, mais le faire alors qu'on n'est âgé que de 6 ans et qu'on ne s'est jamais fait couper les cheveux en est tout autre. C'est toutefois le défi qu'a relevé avec brio Victor Montmini devant tous ses camarades de classe jeudi, en plus de remettre un chèque de 4 098 $ à Lucan, Mauricie, centre du Québec. J'ai décidé de faire le défi tête rasée car c'est un beau geste et ça aide beaucoup d'enfants qui pourraient mourir du cancer, mentionne Victor, 6 ans. Une histoire de courage et d'entraide qui a commencé pour Victor Montmini il y a à peine 3 mois, alors que sa mère, Christine Martel, a donné une longue couette de cheveux à un organisme qui les récupère afin d'en faire des perruques destinées aux gens atteints de cancer. Un geste qui a touché le jeune garçon de 6 ans qui a, par la suite, exprimé le souhait de faire de même à son tour. Merci d'écouter l'émission Le quotidien des quotidiens. C'est la première semaine que l'émission s'appelle ainsi et ça va se poursuivre. Alors, j'espère aussi que vous aimez notre musique thème, toute nouvelle, signée par le compositeur
Maz. C'est un groupe.
Oui. Mais à la tête de ce groupe, il s'appelle... il y a Maz dans son nom. On va y revenir certainement, mais on salue le groupe pour l'instant, Maz, M-A-Z. Et je vous invite à rester avec nous pour les actualités culturelles et aussi la portion sujet libre.
J'ai mis des pneus à clous. Collé au plafond à cause de la statique. J'monte la garde sur ta chambre à coucher. Tu reviens-tu pour souper? J'ai forcé mon cœur. ça coûte cher à la ville. Qu'est-ce que j'aurais pu faire dans mon couillon fondu? Où c'est que ça mènerait si je pédalais plus vite? Finirais-tu par changer d'orbite? Ou avec un flat ça 132? Tiens-toi sur le calorifère pour survivre à l'hiver. Tu t'en vas hiberner dans le métro, puis ce sera ta tanière.
Eux s'appellent le Chasse Galerie et c'était la chanson. Oh, j'ai un problème avec mon micro. Et pour revenir sur Maz, il s'appelle Marc Maziad. C'est tout.
Très bien. Et le titre de la chanson?
Berceuse pour un chant d'oiseau.
Ah, c'est donc beau comme titre. Oui. Alors, on y va. Actualité culturelle, maintenant un hommage à grand déploiement pour Johnny. La France se prépare à rendre à Johnny Hallyday un hommage populaire d'envergure exceptionnelle samedi à Paris. Le convoi funéraire du chanteur, que le président Emmanuel Macron a qualifié de « héros français », descendra à midi les Champs-Élysées de l'Arc de Triomphe à la Concorde avant une messe à la Madeleine annoncée l'Élysée, un cas de figure exceptionnel pour un artiste. Le convoi sera accompagné de 500 à 700 motards, a précisé le manager du rocker Sébastien Farran, alors que des centaines de milliers de personnes sont attendues le long du parcours. Le président Macron prendra ensuite brièvement la parole pendant la cérémonie à la Madeleine, a ajouté la présidence. Un concert avec les musiciens de Johnny Hallyday est également prévu. L'événement pose de considérables problèmes de logistique et de sécurité. Près de 1 500 policiers et gendarmes seront mobilisés, a souligné le préfet de police de Paris. La célèbre Tour Eiffel participera également au recueillement national en portant de vendredi soir à dimanche soir le message « Merci Johnny ». Une chanson du répertoire de Johnny Hallyday sera par ailleurs diffusée ce week-end à l'entrée des joueurs sur la pelouse avant chaque match de Ligue 1 et de Ligue 2 de football. La dépouille du chanteur a quitté dans la matinée la maison de Marne La Coquette près de Paris où il vivait pour être transféré au funérarium du Mont Valérien. Il sera inhumé au cimetière de Lorient sur l'île antillaise de Saint-Barthélemy où le chanteur possédait une propriété, annoncée jeudi soir le président de la collectivité Bruno Magrasse. 4 400%, c'est la hausse des écoutes des titres du populaire rocker sur la plateforme de musique en ligne Deezer depuis l'annonce de sa mort. L'organisation du prix littéraire des collégiens annonce la création du premier prix BD des collégiens qui sera remis le 26 avril 2018. 5 bandes dessinées ont été sélectionnées et seront soumises aux différents clubs de lecture constitués dans les collèges et cégeps. Les 5 titres en nomination sont « Comment je ne suis pas devenu moine » par Jean-Sébastien Bérubé, « Le septième vers » par Paul Bordelot, « Regard trouble » par Éric Pellado, « Titan » par François Vigneault et « Une longue canicule » par Anne Villeneuve. Par ailleurs, les finalistes du prix littéraire des collégiens dans la catégorie « Roman » ont été dévoilés le 10 novembre dernier. Ou ne pas fumer, telle est la question que les compagnies de théâtre devront se poser en montant une pièce. Le Devoir nous a appris hier que le Trident à Québec a reçu une amende parce qu'une actrice s'allumait une cigarette sur la scène. L'incident s'est produit durant les représentations du cas Joey Ferguson en novembre dernier. À la suite de la plainte d'un spectateur, des inspecteurs du ministère de la Santé ont été dépêchés sur place pour constater le non-respect de la loi interdisant de fumer dans un lieu public, même une cigarette électronique. Ils ont remis un constat d'infraction au théâtre avec une amende de 682 $. La directrice artistique du Trident, Anne-Marie Olivier, explique que la production utilise une cigarette comme élément de mise en scène voulu par l'auteur pour illustrer l'anxiété du personnage de sa pièce. Au TNM, le comédien François Papineau fume 2 cigarettes et offre même un cigare à un personnage dans Vue du pont. Or, la direction confirme à la presse n'avoir reçu aucune plainte. Pour l'instant, point de suspension, c'est un texte de Luc Boulanger dans la presse. Denis Villeneuve en campagne, alors que les premières annonces de certaines associations de critiques ont déjà été faites, Denis Villeneuve participe activement à la campagne de Blade Runner 2049 en vue de la prochaine saison des récompenses. L'an dernier, Amy Adams l'a fait à ma place pour Arrival, car je n'étais pas disponible, a déclaré le cinéaste à la presse hier. Honnêtement, j'ai vraiment l'impression d'être dans le jour de la marmotte, car j'assiste à des événements où l'on rencontre toujours le même monde. Vivre ça 2 années d'affilée, c'est vraiment weird. Avant Arrival, je n'avais pas réalisé à quel point la soirée des Oscars est le point d'arrivée de toute une saison de tapis rouges et d'événements dont on ne saisit pas toujours la portée, mais où il faut être pour faire partie de la conversation. Compte tenu de la performance du film au box-office nord-américain qui n'a pas été à la hauteur des attentes, Denis Villeneuve a une vision réaliste de la course qui se dessine. Il estime toutefois que Blade Runner 2049 a de très bonnes chances de se distinguer dans certaines catégories. « Je m'implique aussi beaucoup dans la campagne », dit-il. « J'ai assisté à beaucoup de projections spéciales au cours du mois de novembre, participé à quantité de séances questions-réponses et j'ai accordé beaucoup d'interviews. Le programme est moins chargé en décembre, mais ça reprendra de plus belle en janvier. Mes attentes demeurent réalistes. Une production de cette ampleur qui ne fait pas bonne figure au box-office nord-américain peut difficilement avoir le vent dans les voiles, d'autant qu'il y a beaucoup de bons films sur la ligne de départ. Je crois que nous avons quand même de sérieuses chances car le film est très apprécié dans le milieu. » Un film inspiré par l'enfance de Céline. La diva québécoise et sa famille ont donné leur aval au projet de Marc-André Lavoie. Alors que l'actrice française Valérie Lemercier a annoncé cette semaine son intention de faire un film biographique sur Céline Dion, un autre projet de long métrage sur la célèbre diva québécoise est aussi en préparation au Québec, a appris le Journal de Montréal. Et ce film, qui sera produit et tourné au Québec, bénéficie de l'appui de Céline et de la famille Dion. Intitulé « Ce n'était qu'un rêve », ce film se penchera sur l'enfance de Céline Dion, de sa naissance à sa rencontre avec René Angélil alors qu'elle avait 12 ans, et qu'elle s'apprêtait à sortir de l'ombre. Le scénario sera écrit par le réalisateur Marc-André Lavoie, qui a écrit et réalisé, je crois bien, « Hot Dog » et « Innocent », Adrien Botson et Jimmy Dion, un neveu de Céline. Ce n'était qu'un rêve n'est pas le premier projet de film sur la vie de Céline Dion, mais c'est le premier à avoir l'approbation de la chanteuse. Une première version du scénario a été écrite. Orange Media, qui produit le film, espère pouvoir le tourner d'ici un an et demi avec un budget d'au moins 5 millions de dollars. Le réalisateur n'a pas encore été choisi. Il va y avoir un gros travail de casting à faire parce que toute la famille Dion sera reconstituée, indique Lavoie. Ça va nous prendre 3 jeunes actrices pour jouer Céline à différents âges et il va falloir qu'elles chantent bien.
J'ai déposé mes armes à l'entrée de ton cœur sans combat et j'ai suivi les charmes. Lentement, en douceur, quelque part là-bas, au milieu de tes rêves, au creux de ton sommeil, dans tes nuits, un jour nouveau se lève, à nul autre pareil, et tu sais depuis,
tout l'or des hommes.
Ceux qui ne l'auraient pas reconnu, c'était Céline Dion, bien sûr, et c'était la chanson « Tout l'or des hommes ».
Alors, allons-y avec les sujets libres, les parties de bureau à l'ère du mot-clic « MeToo ». Impossible pour les patrons de planifier les célébrations du temps des fêtes en faisant fi du phénomène mot-clic MeToo et des dénonciations du harcèlement sexuel et psychologique au travail. Des organisations veulent terminer l'année de façon festive, mais faire désormais preuve d'une vigilance accrue. C'est un texte d'Isabelle Massé dans la section Vie au travail, affaires. Des mesures resserrées. Cava Rose, spécialisée dans l'organisation d'événements, a abordé la période des fêtes différemment cette année. On note un changement, explique l'associé Paul Labelle. Les entreprises sont conscientisées. Dans un party récemment, on voulait des danseuses burlesques. Après les révélations dans les médias, on s'est demandé si on les garderait. J'ai fait modifier les costumes pour m'assurer qu'ils ne seraient ni trop courts ni trop décolletés. Certains patrons souhaitent que l'alcool coule à flot moindre lors de leur party de bureau. Habituellement, on prévoit une demi-bouteille par personne pour les parties en semaine et une bouteille pour ceux de fin de semaine, raconte Paul Labelle. Mais certains clients calculent cette année une demi-bouteille, même pour les parties de fin de semaine. Et ce n'est pas pour une raison financière, mais pour éviter les dérapages. Les suggestions de Cava Rose, des gardiens de sécurité. On recommande fortement d'en engager deux, dont un qui se tient non loin des salles de bain des femmes, explique Paul Labelle. Des gardiens, ce n'est pas significativement plus de dépenses, mais ça fait une différence sur les plans de la confiance et de la responsabilité morale. Un alcotest près de la porte de sortie et que quelqu'un qui ne connaît pas les employés le fasse passer. Un œil par le personnel de service pour voir si un employé boit beaucoup. Un sur deux. On est témoin, mais souvent on ne dit rien. Lors des parties de bureau du temps des fêtes, environ la moitié des travailleurs affirment avoir été témoins d'inconduites sexuelles selon un sondage CROP pour l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés. Mais 71 % des travailleurs témoins de tels comportements ne les ont pas signalés, lit-on. Les écarts observés sont généralement plus présents entre employés sans lien d'autorité que de la part d'une personne en position d'autorité vers un employé. Une personne sur dix soutient que les inconduites à caractère sexuel se produisent fréquemment. Cela dit, lorsqu'elle a connaissance d'un écart de conduite, la direction intervient dans la majorité des cas. Les obligations et organisations et de leurs salariés. Dans les parties, les obligations sont les mêmes qu'au bureau, car on transpose le bureau dans un autre milieu, note Geneviève Baudin, associée spécialisée en droit du travail et de l'emploi de la firme Langlois. L'employeur doit fournir un milieu de travail sain et sécuritaire, exempt de harcèlement psychologique en vertu de la loi sur les normes du travail. C'est la base, dit Geneviève Baudin. L'employeur le fait notamment par une politique diffusée et connue de tous. Dans le contexte des parties des fêtes, il est important de republier cette politique. Quant à l'employé, il ne doit pas mettre en danger la santé et la sécurité des autres. Donc, pas de harcèlement, insiste Geneviève Baudin. Il a une obligation de civilité aussi. Pas de langage déplacé, ni de gestes douteux. N'abolissez pas le party de bureau, car les dérapages sont souvent le fait d'une personne ou d'un petit groupe d'employés, soutient Geneviève Baudin. Habituellement, l'employeur connaît son monde. Il y a cependant un réexamen à faire pour ne pas reproduire ce qui est arrivé les années précédentes. Comment éviter les dérapages? Empêcher certaines activités, les échanges de cadeaux érotiques, même sous le couvert de l'humour? Non. Limiter la boisson par des billets modérateurs ou un bar ouvert qu'on ferme à une heure précise, par exemple. Mettez en place un alcotest. Chez Langlois, on a fait venir une entreprise pour l'alcotest l'an dernier, dit Geneviève Baudin. Il y avait un kiosque à la sortie de la grande salle. Une personne était présente toute la soirée. Il y avait un aspect ludique à la chose. Assurer la surveillance par des gestionnaires. Les cadres devraient avoir certains rôles à jouer, conseille Geneviève Baudin. Et ça ne veut pas dire jouer à la police. Assurer un retour à la maison sécuritaire, avec des billets de taxi, par exemple. Et rappeler les comportements attendus et les sanctions en cas d'inconduite avant les festivités. Actuellement, aucune sensibilisation n'est faite au préalable, selon un cadre répondant à un sondage CROP pour l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréées. Thank you. Les affiches « ça va » plutôt que « ça va » partout au pays. Alors, le premier « ça va », CCDAVA, plutôt que « ça va » SA, espace VA. L'initiative du prof de français a aussi conquis des entreprises. L'idée d'un enseignant en français de créer des affiches humoristiques soulignant les erreurs communes de français de ses étudiants a suscité l'intérêt de milliers de personnes et ces affiches se retrouvent maintenant dans des écoles partout au pays. C'est un texte de Stéphanie Gendron. L'enseignant du cégep de Rivière-du-Loup, Benoît Dumais, n'en pouvait plus de voir ses étudiants écrire des « ça va, S-A-V-A », « héros », H-E, accent aigu, R-O, ou « mourir » avec deux R sur les réseaux sociaux. Il a placardé les murs du cégep d'affiches présentant des règles de français de base sur un ton humoristique. Son initiative, dont a fait état le journal la semaine dernière, a ensuite fait le tour de la province et au-delà, puisque des écoles francophones de la Saskatchewan, du Nouveau-Brunswick et de l'Ontario les utilisent maintenant. C'est sans compter les dizaines de cégeps, écoles secondaires et primaires du Québec qui ont emboîté le pas. Même des entreprises ont suivi le mouvement. On s'était dit, quand on a fait cette campagne, que si on pouvait la diffuser à l'extérieur, ce serait tant mieux. Avec le rayonnement que ça a eu, on ne peut pas demander mieux, a indiqué Jérémy Bouchard du service des communications du cégep de Rivière-du-Loup. L'enseignant a reçu des dizaines de courriels de professeurs retraités, d'amoureux de la langue française et des représentants de commissions scolaires et de cégep qui le félicitaient pour sa bonne idée. « On ne pensait jamais qu'il y aurait une telle réaction », a-t-il déclaré. Même ses étudiants l'ont applaudi en classe au lendemain de la grande médiatisation de la campagne de promotion du français. Les demandes fusent maintenant de partout et plus de 2000 personnes ont visité la page Internet où il est possible de télécharger les affiches gratuitement, un nombre inhabituel de visites pour le site du Cégep du Bas-Saint-Laurent. Lorsqu'elle a créé les affiches, l'équipe des communications souhaitait que l'initiative soit reprise, mais ne s'attendait pas à un tel impact. C'est un rayonnement exceptionnel de savoir que les gens associent le Cégep à l'importance de la qualité du français. L'objectif premier n'était pas le recrutement, mais si ça suscite l'intérêt, tant mieux. Si ça se convertit en inscription, a dit Jérémy Bouchard. Il se dit toutefois réaliste en affirmant que le facteur numéro un pour choisir un cégep, c'est la proximité. Mais si on peut rentrer la « marque », entre guillemets, cégep de Rivière-du-Loup dans certaines têtes, c'est un plus, ajoute-t-il. L'entreprise de transport Groupe Morneau, basée dans le Bas-Saint-Laurent, a décidé de placarder sous peu ses murs d'affiches du cégep. Ces illustrations sont des outils parfaits pour souligner les difficultés de la langue française avec humour et permettre à nos collaborateurs d'apprendre et s'améliorer, a souligné Jimmy Lévesque, directeur de compte pour Groupe Morneau. Un marché de Noël pour une bonne cause. Une vingtaine d'artisans talentueux présenteront leurs créations au traditionnel marché de Noël au profit de la Société canadienne de la sclérose en plaques, section Montérégie, le 9 décembre, c'est demain, de midi à 16h, au jardin intérieur situé au 1705 avenue Victoria à Saint-Lambert. Savons, vitraux, bijoux, foulards en soie, décorations, cartes, gourmandises et autres trouvailles attendent le public. L'ambiance sera festive, notamment en présence du Père Noël au son d'un concert de piano. Un tirage sera aussi effectué auprès des clients du marché. La Société canadienne de la sclérose en plaques amassera des fonds pour financer la recherche et offrir des services aux personnes atteintes en Montérégie. L'organisme rejoint plus de 1200 personnes atteintes de la sclérose en plaques en organisant des activités pour donner de l'information et du soutien ou permettre de faire de l'activité physique. Les personnes atteintes de sclérose en plaques vivent avec les symptômes toute leur vie. Aucun traitement pour guérir de cette maladie n'a été trouvé à ce jour. Et voilà, ça complète l'émission Le quotidien des quotidiens de ce 8 décembre 2017. Je vous souhaite une agréable fin de semaine. Merci Mathieu Tessier à la régie, au choix musical. Ici Hélène Denis, je vous retrouve lundi. À bientôt.